Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui vous apprendra, welcome, bienvenue, welcome, ou qui vous rappellera, merci aux fidèles, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis en gros 1895 sur des supports de plus en plus divers et de plus en plus petits. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous n'avons que 30 minutes et encore un peu moins pour évoquer la carrière d'un géant d'Hollywood. Un géant foudroyé, on y reviendra, mais Elia Kazan ne fut pas n'importe qui. Elia Kazan ne tourna que des bons films, je les ai pratiquement tous vus, et à chaque fois, il n'y en a pas énormément, mais ce sont des chefs-d'œuvre. Donc ce jour, dans 24 notes secondes, et je vais essayer d'être un peu moins bavard, eh bien, énormément de grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma américain des années 50-60. Même si l'homme est né le 7 septembre 1909 à Istanbul, en Turquie, de parents d'origine grecque. Tout cela a son importance, nous y reviendrons. En 1913, eh bien, son père, importateur de tapis, part seul aux États-Unis, puis fait venir ensuite toute sa famille. Autant dire qu'Elia Kazan n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche et que, pour pouvoir terminer ses études, comme bon nombre de réalisateurs américains. Il exerce divers métiers avant d'écrire sa première pièce en 1934. De 34 à 36, il est au Parti communiste américain. Là aussi sera son importance, duquel il sera exclu en 1936 et de 1934 à 1940. L'homme se fait un nom dans un premier temps au théâtre avant d'être évidemment attiré à Hollywood. Je fais un peu bref, puisque c'est en 1944 qu'il tourne son premier vrai film, Le Lys de Brooklyn, A Tree Grows in Brooklyn, adapté d'un livre fameux là-bas et pratiquement inconnu chez nous. En 1947, eh bien, Elia Kazan fait deux choses. D'une part, il fonde l'Actor Studio, le fameux Actor Studio où passeront tant de grands acteurs américains. Marilyn elle-même y fit de brèves et plutôt médiatiques apparitions. Mais l'Actor Studio, eh bien, c'était là où on enseignait la méthode, une façon tout à fait particulière de jouer et qui a imprégné tout le cinéma américain des années 50. Donc, c'est la première chose qu'il fit en 1947. Et puis, il tourna un film dont nous ne pouvons pas écouter un extrait de la bande originale, hélas, mais qui reste quand même assez connu. Ça s'appelle Le Mur Invisible. On y voyait Gregory Peck dans le rôle principal. Le Mur Invisible, eh bien, c'est celui qui empêchait les personnes d'origine juive d'accéder à certains niveaux de la société américaine. L'occasion pour Elia Kazan, eh bien, de dénonciation. Il en fera d'autres, notamment dans L'Héritage de la chair, Pinky, tourné en 1949. Et qui est consacré cette fois au racisme, avant que 1952 ne lui apporte la consécration. Alors ma petite fiche hésite, et moi aussi, donc entre 50 ou 52, je vérifierai. Pendant que vous écoutez un premier extrait musical, j'ai déjà été assez bavard. Le film, vous n'êtes peut-être pas connu, mais le titre certainement, ça s'appelle Un tramway nommé Désir, A Streetcar Named Desire. Évidemment, Marlon Brando était aux commandes. Allez, on écoute un extrait de la bande originale. J'y reviens après dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait géant de la bande originale d'un film qui ne l'est pas moins, Un tramway nommé Désir, il y a 15 ans, 1951. J'ai vérifié sur mes petites fiches. En 1947, il y a 15 ans, et Tennessee Williams choisissent un jeune acteur peu connu, un gars qui s'appelle Marlon Brando, pour être le héros de l'adaptation, enfin de la pièce de théâtre écrite par Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir. Le gars, il la joue 855 fois la pièce, bref, c'est un triomphe absolu, et évidemment, quand il s'agit de la porter à l'écran, Marlon Brando s'impose, personne ne l'aura oublié, avec son t-shirt un peu sale et largement déchiré en Stanley Kowalski. Alors à côté de ça, 50 nuances de gris, ils peuvent aller se habillé. À ses côtés, eh bien, on trouve Kim Hunter, Karl Malden et Vivian Leigh, qui n'étaient pas dans la distribution originale américaine, puisque c'était Jessica Tandy qui s'y collait, mais qui par contre avait joué la pièce à Londres sous la direction de son mari, Laurence Olivier. Et Vivian Leigh fut évidemment une inoubliable Blanche Dubois. Un film tout poisseux, un film tout sexuel, il faut bien le dire. Un tramway nommé Désir, vous mettrez derrière tout ce que vous voulez. Et même déjà, vous voyez, rien qu'en en parlant, ça devient tendancieux. Et la musique, elle était signée d'Alex North, lui aussi un géant de la musique de film américaine des années 50, l'un des premiers à avoir introduit le jazz au cinéma. Jusque-là, c'était considéré comme assez impur. Et sa partition, eh bien, est unanimement saluée comme une des plus grandes des années 50. Que vous dire de plus ? Un film à voir absolument. Je suis bien certain qu'il n'a absolument pas vieilli et que, aussi bien la qualité du scénario signé évidemment de Tennessee Williams, de la réalisation d'Elia Kazan, des acteurs déjà cités, bref, tout est parfait. Allez, pourquoi dire plus ? Et passons à nouveau à la musique, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale du film tourné à nouveau avec Marlon Brando dans le rôle principal du film d'Elia Kazan. Donc cette fois, le scénario, il est dessiné de John Steinbeck. Alors voilà, que des géants ce jour dans 24 notes seconde, l'homme des raisins de la colère, pour évoquer d'une façon quand même relativement orienté, il faut bien le reconnaître, la vie d'un autre géant, celle de Emiliano Zapata, qui, dans les années 10 du 20e siècle, eh bien, s'opposa au Mexique à la dictature de Porfirio Diaz. Aux côtés de Marlon Brando, qui évidemment interprétait Zapata, on retrouvait Gene Peters, on retrouvait Anthony Quinn et quelques autres, et puis surtout, on retrouvait à la musique Alex North. Que du bonheur! Aujourd'hui, comme d'habitude, dans 24 notes secondes. Eh ben, si ça, ça ne donne pas envie de se lever, de faire la révolution, alors je ne sais pas. Un extrait de la bande originale de Viva Zapata, évidemment, avec les accents mexicains intercalés par Alex North dans une partition, là encore absolument magnifique, mais il faut que j'arrête dans les superlatifs. Sinon, nous ne verrons pas le bout de cette émission, un film d'Elia Kazan auquel nous consacrons ces 30 petites minutes pour un des géants d'Hollywood. Qui, en 1952, eh bien, il eut une mauvaise année, il faut bien le reconnaître, puisque d'un côté, il signa un film que je n'ai pas vu et qui, a priori, est inédit en France. Ça s'appelle Man on a Tightrope. Et puis surtout, en 1952, eh bien, il fut convoqué de son passé au Parti communiste déjà évoqué devant la fameuse commission d'enquête menée par l'ignoble sénateur McCarthy dans le cadre de la chasse aux sorcières qui visait à éliminer l'influence communiste des États-Unis et tout particulièrement du milieu du cinéma. Et il faut le reconnaître qu'en 1952, eh bien, Elia Kazan ne fut pas à son meilleur, puisqu'il accepta d'une part de comparaître devant cette commission. À vrai dire, on ne pouvait pas s'en passer, sauf à aller en prison. Et puis surtout, eh bien, il donna le nom de quelques-uns de ses camarades, une opprobre qui le poursuivit ensuite toute sa vie durant. Il faut bien le reconnaître, il tourna encore beaucoup de films, beaucoup de chefs-d'œuvre, mais il restera aussi, et il faut le souligner, comme l'homme qui, en 1952, n'hésita pas à trahir ses amis. Ironie d'autant plus amère qu'en 1952, eh bien, il connut certainement l'un de ses plus gros succès puisque le film obtint l'Oscar du meilleur film, l'Oscar d'interprétation pour Marlon Brando à nouveau et le meilleur second rôle pour la jeune débutante Eva Marie Sainte, mais si, celle qui est dans La mort aux trousses, pour un film intitulé Sur les quais qui était une sorte de célébration des syndicats et qui voyait un témoin accepter justement de collaborer avec une commission d'enquête, ce qui était assez troublant. Le film, donc Sur les quais, On the Waterfront, fut un des plus gros succès d'Elia Kazan, un film très politique, là encore, et l'homme resta dans cette ambivalence entre ce que les Américains appellent le progressisme. Bon, allez, une gauche un peu tiède, je vous laisse mettre des noms après, rien à voir avec d'autres, là aussi je vous laisse mettre des noms après, et puis de l'autre côté, eh bien, sa délation, il faut bien l'appeler comme ça, de 1952. Alors on ne va pas écouter un extrait de la bande originale de Sur les quais, mais on va écouter un extrait du film qu'il tourna ensuite, et je vous en dirai deux mots ensuite. Si je vous dis À l'Est d'Éden, si je vous dis James Dean, je vous aurais presque tout dit, mais il faut quand même ajouter que la musique, elle est de Leonard Rosenberg. Le 8 février 1954, alors qu'il est en train de préparer le tournage d'À l'Est d'Éden d'après un roman de John Steinbeck et alors qu'il s'apprête à confier le rôle principal du film à Paul Newman, eh bien, Elia Kazan assiste à la représentation à Broadway d'une pièce inspirée de L'Immoraliste d'André Gide. Autant dire qu'on est vraiment dans le off sur Broadway. Le jeune acteur principal, eh bien, c'est James Dean, vous l'auriez sans doute deviné. Kazan hésite un peu et puis les screen tests font qu'il choisit James Dean, dont c'est donc le premier film. Et il note dans ses mémoires, puisqu'ensuite l'homme publia plusieurs volumes de mémoires, que c'est vers les trois quarts du film qu'ils comprirent que quelque chose de spécial se passait. Et effectivement, quelque chose de spécial se passait, puisque quand À l'Est d'Éden sortit sur les écrans, James Dean, dont c'était donc le premier film, devient instantanément, définitivement une star internationale et le restera d'autant plus qu'il ne lui reste que deux films à tourner, puisqu'on verra ensuite La Fureur de Vivre de Nicolas Ray et ensuite Géant, et puis ensuite, comme tout le monde je pense le sait, L'Homme se tuera au volant d'une Porsche quelque part dans le désert et gagnera donc les galons de star incontesté immortel d'Hollywood. Il faut dire qu'il était véritablement transcendant dans le rôle de Cal Trask, oui, c'est le nom du personnage, qu'il interprète dans À l'Est d'Éden, notamment devant son père, incarné par Raymond Massey. Et Elia Kazan raconte dans un passionnant reportage que Raymond Massey et James Dean étaient vraiment aux antipodes l'un de l'autre en tant qu'acteur, puisque James Dean arrivait en retard sans savoir son texte, tandis que Raymond Massey arrivait à l'heure en sachant son texte, et que du coup la haine que les deux acteurs développèrent l'un à l'égard de l'autre servit le propos du film, puisque justement c'est l'histoire d'un rapport ô combien conflictuel entre un père et un fils, bref, un de ces films monstres là encore de l'histoire du cinéma, qu'on doit donc à Elia Kazan, certes la naissance d'une star, mais aussi une très très grande adaptation de John Steinbeck, et vraiment là encore quelque chose de magistral, et je vous ai dit que j'arrêtais les superlatifs, mais comment faire alors que nous allons de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre et qu'on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1956, donc juste après À l'Est d'Éden, par Elia Kazan. Alors en français, il paraît que ça s'appelle La Poupée de Chair, mais personne ne parle de ça. Ça s'appelle Baby Doll, tout simplement. C'est inspiré, là encore, de Tennessee Williams. La musique, elle est signée de rien moins que Keaton Hopkins. Vous voyez, là encore, on est dans les grands. Allez, dans 24 notes, seconde. Thank you. encore une musique bien poisseuse, façon Tennessee Williams pour un film qui ne l'était pas moins, Baby Doll, et il y a 15 ans, 1956, l'histoire d'une très jeune femme, enfin disons qu'elle a, elle va avoir 20 ans, mariée à un très vieux monsieur, et pour ses 20 ans, elle lui a promis deux. Vous imaginez maintenant 20 ans, ça paraît quoi? Mais enfin, en 1956, c'était pas tout à fait pareil, et quand vous aviez vu Carole Baker dormir avec une petite nuisette, le pouce dans la bouche, dans quelque chose qui ressemble vaguement à un berceau, eh bien ma foi, vous ne vous en remettiez pas. Mais n'exagérez pas, je n'ai quand même pas vu le film à sa sortie. À l'époque, cela fit scandale. Maintenant, j'imagine que ce serait bien anodin. Et peut-être que maintenant, on re-regarderait non pas seulement Carole Baker, dont son fut quasiment l'unique film. On ne regarderait pas seulement Carole Baker et ses formes, mais aussi eh bien, la qualité d'interprétation, de réalisation si propre à Elia Kazan. Alors, on s'achemine déjà vers la fin de cette émission. C'est vraiment dramatique. Peut-être qu'il faudra faire Elia Kazan 2, puisque comment ne pas évoquer en 1960 le fleuve sauvage où l'on voyait le merveilleux couple incarné à l'écran par Montgomery Clift et Lee Remick pour une histoire qui se passait quelque part pendant le New Deal de Roosevelt. Quand je vous disais qu'Elia Kazan fut à mi-chemin entre sa part sombre et sa part progressiste, un film en couleur. J'avais oublié de préciser tout à l'heure que À l'Est d'Éden, pardonnez-moi, fut le premier film en couleur de Kazan et son premier film en cinémascope aussi. Et dans Le Fleuve Sauvage, avec la magnifique photographie d'Ellsworth Fredericks, eh bien, c'était absolument sublime. On pourrait aussi évoquer en 1961 La Fièvre dans le sang, Natalie Wood, Warren Beatty. Là encore, que dire pour un film qui se passait là encore dans les années 30 avec une musique de David Amram. Nous y revenons dans quelques minutes et puis surtout, surtout, alors je vais pas conclure sur ça, je vais juste dire qu'en 1976, Elia Kazan tournera son dernier film. Il nous a quitté qu'en 2003, mais il tourna son dernier film en 1976, un hommage au cinéma, ça s'appelait Le Dernier Nabab. Allez, je vous dis comme ça le générique. Robert De Niro, Robert Mitchum, Tony Curtis, Jeanne Moreau, Jack Nicholson, Donald Pleasance. Vous en voulez d'autres encore d'après un roman de Scott Fitzgerald? Bon, allez, j'arrête Le Dernier Nabab. À voir absolument. Tout comme America, tourné en 1964. L'histoire, eh bien, du père d'Elia Kazan et son histoire et l'histoire de tous les immigrés. Un chef-d'œuvre absolu. Peut-être le plus grand film d'Elia Kazan. Et on va conclure, pardonnez-moi, mais je suis ému en écoutant un extrait de la bande originale signée de David Amram, un Arménien, en 1969, qui était quelque part une évocation biographique de la vie de Kazan. Kirk Douglas interprétait le rôle principal, celui d'un homme sans souci, sans histoire, vivant dans le luxe, mais qui revenait de loin et qui du coup, eh bien, se faisait largement rattraper par son passé. Une belle apologue de la vie d'Elia Kazan, auquel nous consacrions cette émission de 24 notes secondes. I'm so sorry. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye.